With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Le monde après-m, bend dessiné.
Un bend dessiné qui n'est pas tout à fait un bend dessiné, vous allez comprendre. J'ai eu envie ce matin de vous proposer une semaine un peu particulière. Nous n'allons pas ouvrir une BD, mais un catalogue. Alors rassurez-vous, hein, nous sommes loin du catalogue de la Redoute. Non, j'avais envie de me replonger dans l'année 2016, car cette année-là, à Paris, à la Philharmonie de Paris, avait lieu une expo absolument sublime autour du Velvet Underground. The Velvet Underground New York Extravaganza, une exposition qui a eu lieu du 30 mars au 21 août 2016. Il en existe un catalogue, le catalogue de l'exposition, je l'ai depuis très longtemps, depuis 4 ans du coup, dans ma bibliothèque. J'avais vraiment envie de le parcourir avec vous. C'est une exposition qui posait une question: comment un groupe ignoré par le succès pendant sa brève existence, qui va de 1965 à 1970, malgré sa collaboration en tant qu'auteur avec Warhol, comment un groupe comme le Velvet a-t-il progressivement révélé ses talents jusqu'à devenir la légende rock par excellence? La trajectoire du Velvet Underground est unique, trop précurseur, trop transgressif et désinhibé pour son époque. Il devient une inépuisable source d'inspiration pour les musiciens des décennies suivantes. Comme vous pourrez le lire dans ce catalogue, il était difficile d'imaginer deux personnalités et trajectoires aussi dissemblables que celles des fondateurs du Velvet. Avant de se rencontrer, John Cale et Lou Reed ne partagent rien, ou presque, si ce n'est leur passion du rock'n'roll. Le premier, John Cale, né le 9 mars 1942, est issu de la classe populaire du Pays de Galles. Encouragé par sa mère, il va suivre un apprentissage musical académique qui aurait dû le conduire à mener un jour un orchestre. Lou Reed, né une semaine plus tôt à Brooklyn. Il vient pour sa part de la moyenne bourgeoisie juive new-yorkaise. Il va très vite sortir des rails, révélant un tempérament difficile, comme le disent certains. Moi, je dirais plus un tempérament fascinant, le tempérament d'un génie qui est tout simplement inadapté à l'étroitesse d'esprit de la banlieue de Freeport où il grandit. Et ça, on le ressent vraiment à la lecture d'une lettre de Meryl Reed Reiner, c'est la sœur de Lou Reed. Cette lettre, vous la trouvez dans ce catalogue. Je vais vous en lire un extrait. Meryl écrit à propos de Lou Reed: quand nous avions de la visite, il restait cloîtré dans sa chambre. Parfois, il venait s'asseoir avec nous, mais ses yeux étaient éteints. Malgré leur appréhension, mes parents ont pris les choses en main et emmené Lou chez un psychiatre. Que s'est-il véritablement produit dans le cadre de la thérapie? Je sais seulement que le psychiatre a recommandé une thérapie par électrochoc. J'ai vu mon frère rentrer à la maison quelque temps après, littéralement hébété et assisté par mes parents, car il était incapable de marcher. Suite à ça, pour passer un petit peu plus vite sur la lettre de Meryl, suite à ça, les parents de Lou Reed vont accepter de l'inscrire à Syracuse University pour prendre un nouveau départ. Et c'est bien ce qu'il fera. Ensuite, le Velvet Underground verra le jour. Mais d'ici là, il se passera quand même beaucoup d'autres choses et nous allons avoir l'occasion d'en discuter ensemble dans le monde d'après-midi toute cette semaine. Le Velvet Underground, qui sortira un album absolument hallucinant en 1967, The Velvet Underground and Nico, un album qui sera un véritable échec commercial. Mais comme le dit la célèbre formule que vous avez peut-être déjà entendue, il n'y eut peut-être que 1000 personnes à avoir acheté l'album à sa sortie, mais chacune a ensuite formé un groupe. Voilà le pouvoir du Velvet, album sur lequel nous trouvons There She Goes Again. Le voici sur Rock et Folk Radio. The Velvet Underground New York Extravaganza. Voilà le nom de ce catalogue que nous feuilletons ensemble toute cette semaine dans le monde d'après. Un catalogue qui nous raconte en détail l'histoire du Velvet Underground avec des photos absolument magnifiques qui n'avaient encore jamais été publiées pour certaines, des documents historiques comme la lettre de la sœur de Lou Reed qui est publiée dans ce catalogue que vous pouvez lire, nous en avons parlé un petit peu hier. À la fin de l'année 64, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, John Cale est engagé pour promouvoir l'une des chansons que Lou Reed écrit à la chaîne pour un label de série B, Pickwick Records. Afin que le son du Velvet prenne forme, il faut à Cale et Reed quelques mois d'expérience commune, d'apprivoisement et de révélations réciproques. C'est là que le groupe va se dessiner peu à peu entre les rues de Harlem et leur refuge du Lower East Side, où Sterling Morrison et Angus MacLise les rejoignent pour d'interminables sessions de répétition.
Teenage Mary, said Uncle Dave, I saw my soul, must be saved. Gonna take a walk down Union Square, you never know who you're gonna find there. You gotta run, 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 take the dragon too.
Le son du Velvet se construit donc petit à petit, mais il manque encore un élément essentiel à l'identité du Velvet Underground. Il manque Maureen Tucker, Mo Tucker. C'est en décembre 1965 que le percussionniste Angus MacLise va faire faux bond au Velvet Underground à la veille de son premier concert. Sterling Morrison se souvient alors que la sœur de son ami d'enfance joue de la batterie et possède une voiture, la combinaison idéale. Au groupe, Maureen Mo Tucker va apporter vraiment le beat tribal de Bo Diddley, une frimousse de petit garçon et une candeur flegmatique capable de survivre aux turpitudes de la factory, comme aux sautes d'humeur de Lou, de John et de Sterling. Mo Tucker, c'est donc l'élément stabilisateur sur le plan humain et c'est un véritable moteur sur le plan musical. Et nous allons ce soir continuer à écouter le Velvet Underground avec un morceau emblématique. Vous l'avez choisi car je vous ai demandé sur le groupe Facebook de Rock et Folk Radio quel était votre morceau préféré du Velvet. Alors évidemment, vous en avez cité de nombreux. C'est vrai qu'il serait fort agréable d'écouter toute la discographie du Velvet. Mais nous allons écouter ce soir Venus in Furs. Ce n'est pas qu'une chanson, c'est aussi un film. On est en novembre 1965 quand un réalisateur excentrique veut faire figurer un groupe dans le film qu'il baptisera donc Venus in Furs. Il se tourne alors vers son ami Angus MacLise, qui n'avait pas encore totalement rompu avec le Velvet à ce moment-là. C'est ainsi qu'apparaissent à l'image Lou Reed, John Cale ou encore Morrison. Ils sont torse nu, recouverts de peinture. Mo Tucker est déguisé en marié masqué. Le film ne survivra pas à la vie vagabonde d'Elitzer, le réalisateur. Heureusement, quelques images sont sauvées par un jeune photographe anglais qui était de passage à New York à ce moment-là, mais aussi par une équipe de CBS qui a choisi le tournage surréaliste de Venus in Furs pour divulguer au grand public l'essence du cinéma underground. À peine formé, le Velvet se retrouve projeté sur l'écran de la télévision nationale pour la première et dernière fois. Lors des 5 années de son existence, le groupe va en effet se contenter de rares apparitions sur de petites chaînes locales dont il ne reste malheureusement aucune trace. Des traces du Velvet Underground, en tout cas, il y en a un bon paquet dans ce catalogue que nous feuilletons ensemble cette semaine dans Band Dessinée et Venus in Furs. Écoutons cette chanson qui nous parle de sadomasochisme, de bondage ou encore de soumission. Eh bien, soumettons-nous à la puissance du Velvet Underground sur Rock et Folk Radio. Exceptionnellement, cette semaine, ce n'est pas une BD, mais un catalogue d'exposition que nous parcourons ensemble depuis lundi. Le catalogue d'une exposition qui avait eu lieu, en fait, à la Philharmonie de Paris entre le 30 mars et le 21 août 2016. Depuis, j'ai dans ma bibliothèque ce très beau catalogue qui s'appelle The Velvet Underground New York Extravaganza. Un catalogue qui recèle de petits trésors. Il y a notamment tout un chapitre sur les années que le Velvet passera à la Factory d'Andy Warhol. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Tout ce chapitre est imprimé sur papier glacé, tellement agréable au toucher, tellement agréable aussi à observer. On y trouve des photos inédites du Velvet dans les locaux de la Factory d'Andy Warhol. Le Velvet Underground qui s'est justement, grâce à ce passage dans la Factory, forgé un son, un univers, une identité en rupture radicale avec les canons du rock'n'roll de l'époque. Le Velvet, c'est une poésie innovatrice qui va aborder de front des thématiques comme la sexualité, la drogue, les abus, la transgression. Ils vont interroger sur les conditions de l'existence. Ça va quand même très très loin, les textes du Velvet Underground et notamment de Lou Reed. La musique est à la fois discordante et fluide. Ce qui fait que ce groupe est totalement différent des autres groupes, c'est que quand on écoute le Velvet Underground, nous n'avons d'autre choix que de nous impliquer. On est fasciné, mais on s'implique tout autant. Et Andy Warhol va justement s'impliquer, il va accueillir immédiatement le groupe dans sa factory. À partir de là, le Velvet est propulsé sous le feu des projecteurs. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Quand le Velvet va jouer au sein de la Factory, il va vivre une expérience musicale assez inédite, puisqu'il faut s'imaginer un local où il y a un grand écran, un écran de projection sur lequel sont projetés des films de réalisateurs très talentueux choisis par Andy Warhol, et le groupe va jouer de la musique live derrière l'écran pendant certaines projections. Ils vont aussi composer des BO pour tous ces films. Alors ça se fait très très vite, hein. C'est un travail immédiat puisque Warhol choisit les réalisateurs, les réalisatrices, et il confie le projet au Velvet de construire une BO. Là où Andy Warhol va aussi apporter sa patte au Velvet Underground, c'est en apportant une voix supplémentaire. Il faut savoir quand même qu'au début, Lou Reed n'était pas forcément fan. Il n'avait pas très très envie de cette voix féminine. Et pourtant, quelle voix, celle de Nico. Nico devient donc la chanteuse du Velvet Underground en janvier 1966. À cette époque-là, sa vie est déjà un roman, c'est déjà une icône. Elle a déjà tourné dans la Dolce Vita de Fellini. I find it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid when you think the night has in your mind that inside you twisted and unkind. Quand elle arrive à la Factory, sa voix, son chant et surtout son allure nonchalante vont tout de suite séduire Andy Warhol. Il voit en elle, je cite, « la figure de proue d'un bateau viking ». Il va donc intégrer Nico au Velvet. C'est là que sortira l'album The Velvet Underground and Nico, avec la célèbre pochette à la banane de Warhol que vous connaissez tous et toutes. Un album qui se vendra très très mal à l'époque et pourtant un album d'une grande clarté, un album sublime qui ne contient que des bijoux musicaux. Nous allons tout de suite justement sur Rock & Folk Radio en écouter un, Pale Blue Eyes, qui est peut-être le plus beau morceau du Velvet Underground. Voici Pale Blue Eyes sur Rock & Folk Radio.
«
Depuis lundi, nous parcourons un catalogue, le catalogue d'une exposition qui avait lieu en 2016 à la Philharmonie de Paris, The Velvet Underground à New York Extravaganza. Nous avons parlé du Velvet, mentionné le fait que c'était la liberté totale, aucun compromis, des expérimentations en tout genre, on en parle depuis 4 jours. Il y avait donc cette exposition exceptionnelle pour explorer 5 années de 1965 à 1970. En 5 ans d'existence et 4 albums à peine, le Velvet Underground a marqué l'histoire de la musique. C'est une influence musicale immense, elle résonne depuis les années 70 et encore aujourd'hui. Vous connaissez d'ailleurs peut-être la formule qui dit à propos de l'album à la banane, le premier album du Velvet, une formule qui est attribuée à Brian Eno. Il aurait déclaré « Je parlais à Laurie de l'autre jour et il me disait que le premier album des Velvet n'a été vendu qu'à 30 000 exemplaires dans ses 5 premières années. Je pense que chacun de ceux qui ont acheté une de ces 30 000 copies a fondé un groupe. » Mais qui sont les enfants du Velvet? Eh bien, nous pouvons déjà commencer par parler des Strokes. C'est Julian Casablancas qui le dit mieux que personne. Il se confie et a écrit au sein de ce catalogue autour du Velvet Underground. Je vais vous en lire un passage. Le Velvet Underground avait une longueur d'avance, leur musique était bizarre mais elle me parlait. Je n'arrive pas à croire que ce ne soit pas la musique la plus populaire de tous les temps. Écouter leurs albums studio aujourd'hui, c'est comme lire un bon livre qui nous plonge dans le passé. Avec The Velvet Underground, un Nico ou Loaded, c'est les 60s, j'ai l'impression d'être à la Factory d'Andy Warhol ou de traîner au Maxis Kansas City. La façon dont Lou Reed a écrit et chanté sur les drogues, le sexe, les gens qui l'entourent, avec quelque chose de très factuel. Je croyais chaque mot d'héroïne. Julian Casablancas, fortement influencé évidemment par le Velvet lors de la conception du premier album des Strokes, confie avoir énormément écouté Loaded. Il l'écoutait en boucle quand il écrivait ses premières chansons. Alors j'aurais bien aimé vous trouver une reprise des Strokes autour du Velvet Underground. Je n'en ai pas vraiment de bonne qualité, mais par contre j'en ai une autre. Une reprise faite par les Kills. Les Kills qui ont repris plus d'un morceau du Velvet Underground. Ils sont eux aussi fortement influencés par le groupe. Ils ont entre autres repris Pale Blue Eyes, Venus in Furs, mais la plus belle des reprises est I'm Set Free, un morceau que l'on entend rarement quand on Set Free, un morceau que l'on entend rarement quand on parle du Velvet Underground. Écoutons donc cette magnifique reprise, The Kills, I'm Set Free, sur Rock & Folk Radio.
Écoutez tous les podcasts de Rock & Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.